VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Abidjan, 14h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. Violence en République démocratique du Congo, l'Union européenne et les Nations unies ont maintenu la conférence humanitaire pour la RDC ce vendredi à Genève en Suisse, malgré le refus de Kinshasa d'y participer. Plus de détails avec Nathalie Barge.
Nous essayons de lever de l'argent, non pas pour le gouvernement, mais pour les millions de gens qui ont désespérément besoin d'assistance humanitaire, a déclaré un porte-parole onusien, Jens Lark. L'ONU et l'Union européenne entendent lever 1,7 milliard de dollars pour la réponse humanitaire nécessaire en RDC. La conférence de Genève devra déterminer qui va gérer cet argent. Kinshasa accuse l'ONU de noircir la situation en RDC et de faire fuir les investisseurs. Le gouvernement affiche un nombre de déplacés internes 20 fois inférieur aux estimations du HCR qu'il estime à 4,5 millions. Ce que nous avons refusé, c'est que l'on organise une conférence humanitaire sur la détresse en RDC en ignorant le gouvernement de ce pays. C'est tout à fait intolérable, a répété le ministre congolais des Affaires étrangères, Léonard Chiokitundu. Kinshasa a annoncé récemment 100 millions de dollars d'aide gouvernementale pour les besoins humanitaires, tout en soulignant ne pas être fermé aux contributions extérieures.
En République centrafricaine, la force des Nations Unies sur place assure que les casques bleus de la MINUSCA, la mission onusienne, ont tiré mardi pour se défendre contre des assaillants lors d'affrontements meurtriers à Bangui. C'était deux jours après le début d'une opération militaire dans le quartier musulman du PK5 visant à déloger des groupes armés. Selon les déclarations du porte-parole onusien Vladimir Monteiro hier, les casques bleus rwandais ont été pris pour cible par des gens lourdement armés. Et lors des combats qui ont duré 4 heures, il y a eu un mort et des blessés côté casque bleu et des morts du côté des assaillants, a souligné M. Monteiro. La lutte contre Boko Haram au Nigeria, plus de 1000 enfants ont été enlevés par les djihadistes du groupe dans le pays depuis 2013. C'est ce qu'a annoncé l'UNICEF ce vendredi à l'occasion du 4e anniversaire de l'enlèvement emblématique de Chibok, où des écoliers ont été kidnappés par Boko Haram. L'UNICEF précise qu'au moins 2295 enseignants ont été tués et plus de 1400 écoles détruites par les djihadistes. L'insurrection de Boko Haram, qui cherche à instaurer un califat dans le nord-est du Nigeria, a fait au moins 20 000 morts et 2 600 000 déplacés depuis 2009. Nigeria, toujours au moins 26 personnes tuées par des hommes armés jeudi soir dans l'état de Zamfara, dans le nord du pays, où les actes de banditisme se sont multipliés récemment. Selon Mustapha Gado Anka, le président du district d'Anka, où ont eu lieu les incidents d'hier soir, des bandits armés à moto ont attaqué des mineurs sur un site d'orpaillage près du village de Kourou-Kourou jeudi soir, avant de tendre une embuscade aux habitants de la localité voisine de Djaokouka, qui s'étaient mobilisés contre les assaillants. Nous avons enterré 26 personnes tuées dans ces deux attaques, a souligné ce responsable local. Le porte-parole de la police de l'état de Zamfara, Mohamed Chehou, a confirmé ces incidents sans donner d'autres précisions. En Gambie, victoire du parti au pouvoir aux élections municipales de jeudi, selon les résultats publiés aujourd'hui par la Commission électorale nationale. Ces premières élections locales, organisées depuis le départ du président Yahya Jammeh il y a un peu plus d'un an, après avoir dirigé pendant le pays pendant 22 années, visaient à renouveler les conseillers municipaux dans les 120 circonscriptions du pays, dont la grande majorité était contrôlée par l'ex-parti de l'ancien chef d'État. Le Parti démocratique unifié, UDP, de l'actuel président Adama Barrow, a gagné dans 62 localités devant le Congrès démocratique de Gambie de l'opposant Mama Kandé, qui l'a emporté dans 23 autres. L'Alliance patriotique pour la réorientation et la reconstruction, APRC, ancienne formation de Yahya Jammeh, a eu le dessus dans 18 circonscriptions seulement. Le reste des localités en litige est réparti entre d'autres formations politiques et des candidats indépendants. Et puis, nouveau gouvernement Sierra Leone, Julius Maada Bio, le président récemment élu, a déjà désigné 14 ministres, 12 hommes et 2 femmes. D'autres nominations sont attendues, Morgan Guiriek.
Le nouveau chef de l'État a choisi Jacob Jussou Safa comme ministre des Finances, un cadre de son parti, le SLPP, qui retrouve le pouvoir après plus de 10 ans dans l'opposition. Julius Maada Bio a confié la justice à Charles Francis Margaï, ministre dans les années 2000 et avocat de profession. Monsieur Margaille est le fils du deuxième premier ministre de l'histoire de la Sierra Leone, Albert Margaille, et le neveu du premier chef du gouvernement et père de l'indépendance en 1961 de cette ancienne colonie britannique d'Afrique de l'Ouest, ensanglantée par une guerre civile entre 1991 et 2002 qui a fait quelque 120 000 morts. Candidat au premier tour de l'élection présidentielle le 7 mars, il s'est rallié à Monsieur Bio. C'est dans ce contexte que le candidat malheureux à l'élection présidentielle, Samora Camara, a saisi la Cour suprême pour contester la victoire de Julius Maada Bio. Il reproche à la Commission électorale nationale d'avoir proclamé la victoire de Monsieur Bio sans tenir compte des irrégularités qu'il dénonce.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Attentat en Somalie où l'explosion d'un engin a fait au moins 4 morts lors de matchs de football. Les précisions de Lionel Gaïma.
La bombe a explosé durant un match de football entre deux clubs de la ville de Baraoué dans la région du Bassabel. Selon Bachir Mohamed Youssouf, commissaire adjoint de la sécurité, l'engin a été placé dans la section VIP du stade et visait les autorités locales. Mais celles-ci s'étaient assises à différents endroits, si bien que la déflagration a touché des joueurs et des spectateurs. L'un des spectateurs pense que l'explosion a été déclenchée par télécommande. La responsabilité de l'attaque n'a pas été immédiatement revendiquée. Port stratégique, Baraoué abrite également une importante base de la force de l'Union africaine. C'était aussi un bastion des islamistes d'Al-Shabaab, repris en 2014 par les troupes de l'Union africaine. En début de mois, les combattants d'Al-Shabaab ont lancé des attaques coordonnées contre 5 camps militaires dans la région. Deux visaient la force africaine à Boulamarer, ville située à 110 km au sud de Mogadiscio.
L'Algérie observe un deuil national depuis la pire catastrophe aérienne de son histoire. La chute, pour des raisons encore inconnues, d'un avion militaire qui a fait en début de semaine 257 morts, dont certains sont maintenant identifiés. Le deuil national de 3 jours a été décrété mercredi en mémoire des victimes. Conflit en Syrie maintenant, les Occidentaux continuent d'étudier leurs options militaires pour punir le régime syrien, qu'ils accusent d'avoir perpétré l'attaque chimique présumé à Douma, dans la banlieue de Damas, tout en restant soucieux d'éviter une escalade avec la Russie qui brandit la menace d'une guerre en cas de frappe. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit de nouveau se réunir ce vendredi à la demande de Moscou. Et le président américain Donald Trump n'a pas encore pris de décision finale quant au déclenchement de frappe pour punir Damas, selon la porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Sanders. Pour Frédéric Pichon, auteur des ouvrages « Syrie, une guerre pour rien » et « Pourquoi l'Occident s'est trompé », la solution à la tragédie syrienne serait peut-être de laisser l'État syrien gagner la guerre. On l'écoute.
Quel que soit le résultat des frappes qui vont avoir lieu et qui, à mon avis, ne vont rien changer de toute façon au cours de la guerre, il faut admettre que, d'une certaine manière, la stabilité de la région et la stabilité de la Syrie est prioritaire sur toute autre considération. Donc moi, je pense que c'est aussi choquant que ça puisse paraître. Il faut laisser Assad gagner en Syrie. Alors on va laisser Assad de côté, à la limite de l'État syrien, de manière à ce que un certain nombre d'autres problèmes soient réglés, qui est le problème des réfugiés, qui est le problème effectivement peut-être aussi de l'État islamique et des groupes terroristes dans la région qui sont prioritaires, me semble-t-il, par rapport à des objectifs qui sont actuellement des buts de guerre qui consistent à punir. Or, punir n'a jamais été un but de guerre.
Frédéric Pichon, auteur des ouvrages « Syrie, une guerre pour rien » et « Pourquoi l'Occident s'est trompé ». En Afghanistan, 15 policiers ont été tués dans l'ouest du pays, dont 9 dans l'attaque d'un « checkpoint ». Les 2 autres policiers ont été tués et 4 autres blessés par une mine artisanale qui a explosé au passage de leur convoi alors qu'ils tentaient de porter secours à leurs collègues assaillis pendant plusieurs heures tard jeudi soir. Ces 2 assauts sont les plus meurtriers depuis des semaines dans le pays. Les talibans se préparent à lancer leur offensive de printemps qui marque généralement le début de la saison des combats à la fin de l'hiver, souvent rigoureux en Afghanistan. Et pour terminer, au Pakistan, la Cour suprême a interdit à l'ancien premier ministre pakistanais Nawaz Sharif de participer à vie à des élections. La plus haute instance judiciaire du pays avait mis fin prématurément au 3e mandat de M. Sharif à la tête du pays en juillet, après des révélations sur de luxueux biens immobiliers détenus par sa famille via des holdings offshore. Le clan Sharif nie toute malversation et suggère que Nawaz Sharif est victime d'une conspiration ourdie par la puissante armée pakistanaise dont il est un ennemi juré.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.